Bleu 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter.
Et notre invité ce matin est politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Il vient de signer une note édifiante pour la Fondation Jean Jaurès sur ce qu'il appelle l'économie de la débrouille. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez régulièrement avec l'IFOP des études sur notre façon de consommer. C'est fondamental parce que vous le dites, dans une société débarrassée des idéologies, je suis ce que je consomme. La consommation, c'est le commun. Autrement dit, on parle de notre identité. Et là, ce qui est nouveau dans cette étude, c'est que c'est la vitalité de ce que vous appelez l'économie de la débrouille. Alors expliquez-nous.
Eh bien, cette économie de la débrouille intègre tous les comportements qui ont été appropriés ou adoptés par une partie de la population française, souvent la plus modeste, pour se maintenir à flot et continuer de participer à la société de consommation tant bien que mal, en adoptant un certain nombre de stratagèmes, de stratégies ou de pratiques dans un contexte de pouvoir d'achat très contraint. Donc ça va passer par exemple par l'adoption de la vente en ligne, la vente d'objets entre particuliers. On a 20% des Français qui vendent au moins plusieurs fois par mois des objets ou des vêtements sur des très célèbres plateformes. On en a 30% qui fréquentent plusieurs fois par an les vide-greniers, les foires à tout, les brocantes, les braderies. On en dénombre à peu près 50 000 en France. Ça fait partie de nos nouveaux paysages. Alors certes, certains pratiquent ce type de comportement par conviction idéologique ou sensibilité écologique, aller vers davantage de sobriété, rompre avec la tout-consommation, mais la grande majorité de ces usagers ou de ces usages...
De ces colporteurs 2.0.
Ce qu'on appelle voilà, des colporteurs 2.0, ceux qui vendent entre particuliers, eh bien tout ça, ça renvoie plutôt à des choix qui sont contraints pour essayer d'arrondir les fins de mois.
Mais vous, le sondeur qui avait l'œil sur nos pratiques, ça vous a surpris qu'elle soit aussi importante, cette économie de la débrouille ?
On avait un certain nombre d'intuitions, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce travail, et puis ensuite, il fallait essayer d'objectiver, quantifier les choses, et effectivement, les proportions qu'on a constatées sont assez impressionnantes.
Oui.
Le Bon Coin nous avait mandaté pour réaliser une étude sur le cadeau de seconde main.
Oui.
Et donc, c'était pas très bien vu, il y a quelques années, d'offrir quelque chose qui avait déjà été porté ou qui n'était pas neuf à un proche. Aujourd'hui, vous avez 40% des Français qui pratiquent, notamment chez les jeunes, le cadeau de seconde main. Et quand on les interroge sur le fait de savoir s'ils ont été transparents sur le bénéfice, auprès du bénéficiaire du cadeau, 85% d'entre eux disent « oui, on l'a dit ». Et donc, ça ne gêne pas, donc ça rentre là aussi dans les mœurs.
Mais ça rentre dans les mœurs, c'est pas selon la même proportion selon qu'on a l'âge 18 ans ou 65 ans.
Et effectivement, on voit que toutes ces pratiques sont
plus... Il y a des fractures générationnelles dans la débrouille.
Tout à fait, sont plus adoptées par les générations les plus jeunes, alors à la fois qui sont les plus agiles sur toute l'économie digitale et numérique. Il s'agit aussi de ce qu'on appelle la génération climat, qui est plus sensible à la question de la sobriété, de la transition écologique, mais c'est aussi la population qui est la plus modeste et qui doit pratiquer ces arbitrages. Alors ça se décline également en matière de transport. Un opérateur comme Flixbus dessert 120 villes en France et les fameux cars Macron ont transporté plus de 10 millions de personnes l'année dernière.
Et les transports, justement, si on décline cet exemple-là, il y a les cars Flixbus, et puis il y a par exemple cette nouvelle classe, cette troisième classe dans les trains.
Oui, alors en 2013, SNCF a lancé le Ouigo, un TGV ou un train à grande vitesse low cost, et quelque part on peut se dire que c'est le retour à la SNCF de la fameuse troisième classe qui avait été abolie en 1956. Alors la date n'est pas anodine. On était en pleine reconstruction, début des Trente Glorieuses, et dans un contexte de moyennisation, il avait été jugé bon que l'on supprime la troisième classe pour ne faire subsister que deux classes, la première un peu premium, et puis la deuxième qui avait vocation à transporter tout le monde. Et plusieurs dizaines d'années plus tard, dans un cycle sans doute de démoyennisation, la même entreprise, SNCF, recrée quelque part la troisième classe, et c'est un signe supplémentaire de cette démoyennisation et de ce désarrimage du bas de la classe moyenne.
Il y a un mot que vous employez qui est le mot de smicardisation, Jérôme Fourquet. Expliquez-nous en un mot et ensuite on le critiquera, ce mot-là que vous employez.
Alors, il n'est pas de moi, il a refait Flores récemment, c'est pour montrer comment une part croissante de la population gravite autour du SMIC.
Oui.
C'est aujourd'hui 17% des actifs qui sont au niveau SMIC.
Proportion de SMICards a beaucoup augmenté.
Oui, puisque le SMIC a comme caractéristique d'être indexé sur l'inflation. Et donc, comme l'inflation a augmenté ces dernières années, le SMIC a augmenté.
Il a beaucoup augmenté depuis 2 ans.
Oui, en lien avec l'inflation. Et du coup, toute une partie de salariés qui étaient juste au-dessus du SMIC se sont fait rattraper par le SMIC parce qu'eux n'ont pas été augmentés automatiquement. Et donc, cette population qui se smicardise, constitue les gros bataillons de cette économie de débrouille. Alors,
mais c'est un problème, parce que c'est pas parce que les salaires ont baissé, du coup, Jérôme Fourquet.
Non, les salaires n'ont pas baissé. C'est le salaire minimum qui a augmenté. Et comme on avait, du fait notamment des allègements de charges, beaucoup de salaires qui étaient juste au-dessus du SMIC, eh bien, quand le SMIC, salaire minimum, a augmenté, ils ont été englobés dans ce halo du SMIC.
Mais ce qu'on comprend en vous lisant, Jérôme Fourquet, c'est qu'effectivement, il n'y a plus vraiment, en tout cas, il y a moins de classe moyenne, il y a cette smicardisation. Est-ce qu'il y a un sentiment de déclassement parmi les gens que vous avez interrogés ?
Oui, bien sûr. Et ça passe notamment par ça se lie pour beaucoup de Français au travers de la consommation. Les marques que je vais pouvoir m'offrir, ce que je vais pouvoir payer à mes enfants, les enseignes que je fréquente disent ma place dans la société. Et on fait aussi l'enseigne Action d'Hyper Discount est passée depuis l'année dernière enseigne préférée des Français.
Parce que Lidl a augmenté en gamme.
Alors, Lidl est monté en gamme, et on a un espace qui a été laissé vacant sur l'entrée de marché, comme on dit, et Action, aujourd'hui, c'est plus de 750 magasins.
En combien de temps ?
En une dizaine d'années. Ils sont arrivés en France en 2012. Ils sont en une cadence de déploiement phénoménale. Et donc, on voit bien que beaucoup de Français sont dans cette logique d'arbitrage contraint et forcé.
Elle est là, l'ambiguïté. C'est-à-dire que vous nous disiez tout à l'heure, ça peut être un choix de consommer à la débrouille. Ça peut être un choix parce qu'on veut sortir un peu du système capitaliste habituel. Ça peut être un choix parce qu'on veut limiter notre impact pour la planète. Mais en fait, la vraie question, c'est celle du pouvoir d'achat.
Ah oui, pour beaucoup de Français, c'est ça qui est le nerf de la guerre, avec des dépenses contraintes qui ont beaucoup augmenté. On va juste donner 3 chiffres. L'électricité en 5 ans, c'est plus 70%.
L'énergie, oui.
Toujours sur l'énergie, rappelez-vous, le litre de gasoil, au début de la crise des Gilets jaunes, en novembre 2018, c'est 1,40€. On est aujourd'hui à 1,90€, 2€. Et l'alimentaire, c'est 20% d'augmentation en 2 ans. Toute cette France qui vit au SMIC, se chauffer, se déplacer, se nourrir.
Et puis il y a Internet,
même pas du logement.
Il y a de nouvelles dépenses contraintes.
Plus vous avez de nouvelles dépenses contraintes
dans les ménages.
Qui rentrent dans le panier des dépenses obligatoires. Et donc cette France est obligée de faire flèche de tout bois, tirer toutes les ficelles pour essayer de se maintenir à flot. Et il y a une économie un peu parallèle qui s'est mise en place progressivement. Et c'est ça qu'on essaie de décrire dans cette note.
Vous parlez justement d'économie parallèle. La débrouille, c'est malgré tout un mot qui a une connotation positive, Jérôme Fourquet. Et pourtant, ce qu'on comprend quand on lit cette étude que vous avez menée avec la Fondation Jean Jaurès notamment, c'est que ça, c'est pas ressenti comme tel, c'est plutôt ressenti comme un mode de vie au rabais. Et quand vous parliez à l'instant d'arbitrage permanent, on peut traduire ça par des renoncements quotidiens.
Oui, et c'est donc la chasse aux promos. Vous voyez, se vendre entre particuliers, jouer à la marchande quand on était petit, ça pouvait être un peu sympathique. Mais
vous l'avez fait ?
Oui, bah, ça m'est arrivé. Mais vous voyez que ça prend du temps. Il faut aller chercher les promos, essayer de remettre en condition des objets ou des vêtements que vous pourriez vendre. Et tout ça se fait pas forcément de gaieté de cœur, c'est du temps, c'est de l'énergie. Mais beaucoup
mode de vie au rabais, vous dites,
mode
encore
de vie
fois,
au rabais.
Pourquoi économie informelle ?
Alors, eh bien parce que on est dans ce que Fernand Braudel appelait une économie sous le marché.
L'immense historien Fernand Braudel,
l'école des
annales. La distinction entre, justement, l'ensemble des relations marchandes à l'échelle nationale et locale.
Voilà. Et là, vous voyez que c'est un peu le retour de l'économie de troc ou du marché paysan où le paysan allait vendre son surplus d'œufs, de beurre, etc., etc., pour récupérer quelques sous et assurer les dépenses du ménage. On revient quelque part par certaines de certains côtés à cette économie un peu informelle. Quand vous vendez entre particuliers, on est hors marché. Quand vous faites les braderies, c'est la même chose. On voit aussi une pratique ancestrale dans certains territoires qui revient en vogue. C'est ce qu'on appelle l'affouage.
Le chauffage au bois.
Alors, c'est pas que le chauffage au bois, c'est la possibilité pour une commune de permettre à certains de ses habitants d'aller couper du bois dans des forêts domaniales. Et donc ça avait complètement disparu. Et ça revient au goût du jour de par la hausse des prix de l'énergie notamment.
Et ça, Jérôme Fourquet, est-ce que ça nourrit pas une sorte de cercle vicieux? Je m'explique. En fait, on paye moins cher son transport, on paye moins cher ses produits, par exemple ses produits alimentaires.
Et finalement, on essaye.
On essaye, mais finalement, ça entretient aussi les prix bas. Là, je pense à l'agriculture et à tout le débat qu'il y a eu sur les prix planchers pour les agriculteurs. Ça veut dire que ceux qui produisent vont aussi s'appauvrir.
Alors, il y a effectivement toute une partie de la population qui ne peut pas se payer le luxe d'être sur des niveaux de prix qui sont relativement conséquents et qui vont aller à l'économie. Hein. C'est ce que d'ailleurs a très bien compris le secteur de la grande distribution, c'est-à-dire soit on voit des enseignes d'hyper-discount, soit les distributeurs classiques mettent le paquet sur les promotions, sur les entrées de gamme, parce qu'ils constatent empiriquement...
Sur leur propre marque,
ils constatent empiriquement que tout le moyen de gamme aujourd'hui est laminé. Et vous voyez, dans le secteur, par exemple, de l'habillement, c'est quelque chose qui est assez frappant ces dernières années. C'est toute la disparition de ces enseignes de prêt-à-porter...
De milieu de gamme.
Milieu de gamme, qui, aujourd'hui, sont arbitrées. Et au moment, on raconte ça dans la note, au moment où ces enseignes périclitent, il y a des stocks d'invendus qui sont rachetés par des enseignes de...
Promode, on pense à Promode, par exemple.
Oui, Camailleux, Naf-Naf, etc., etc. Et tout ça est racheté, notamment par un nouveau type d'acteur qui a émergé, qui est le secteur du déstockage et les faillitaires, hein, qui vont racheter des stocks d'invendus et qui les bradent un peu partout en France, et ça rencontre un succès phénoménal.
Et vous l'étudiez de manière assez fine, il y a des cartes qu'on peut voir, par exemple, celle de département, de la Somme sur l'emplacement de ces enseignes de déstockage et de discount non alimentaire, et ça correspond à la densité de population et à l'occupation du sol. Expliquez-nous ça rapidement, Jérôme Fourquet, que ça fait quasiment une forme de sociologie de carte de la population dans un territoire.
Oui, bon, on voit que la moindre petite agglomération va être aujourd'hui quadrillée par ce type de magasin, ce type d'enseigne, notamment dans ce qu'on a appelé la France périphérique. Et on voit que donc ça rentre en résonance avec la sociologie et les conditions de vie de ce public-là. Étudier le déploiement territorial d'une enseigne dit beaucoup sur la sociologie des territoires concernés.
Et en quelques mots, Jérôme Fourquet, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, mais quand Gabriel Attal, dans son discours de politique générale, parle de désmicardisation, puisqu'on parlait tout à l'heure de smicardisation, en fait, est-ce que ça peut justement parler aux personnes que vous avez interrogées dans cette étude et qui vivent à la débrouille?
Alors oui, bien sûr, encore faut-il que les paroles soient suivies par des actes, parce que, encore une fois, le fait marquant pour beaucoup de Français, c'est d'avoir été rattrapé par le SMIC. Ils se sentaient juste au-dessus de la ligne de flottaison, et aujourd'hui, avec les mécanismes qu'on a écrits, ils sont rattrapés par ce SMIC et donc sont en voie de déclassement réel ou ressenti. Et encore faut-il, encore une fois, que le slogan proclamé par le Premier ministre trouve des traductions concrètes dans leur vie.
Jérôme Fourquet du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP, merci de nous avoir répondu sur Inter. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La France d'après, tableau politique publié au Seuil. Et sur cette question de la débrouille et plus précisément de nos stratégies pour dépenser moins, je vous rappelle aussi le magazine Interception demain consacré à la France Discount.
Merci Jérôme Fourquet, merci à vous de nous écouter sur France Inter. Bienvenue, il est 8h.